Donc la transition, il me semble qu'elle elle émerge d'elle seule dans l'intervention de Daniel Cohen et dans la discussion qui a suivi en particulier. Le titre de cette discussion entre Pierre Hassner et Camille Grand, à qui je vais céder la parole tout de suite, la démocratie vue de l'étranger, elle est renvoyée immédiatement à ce qu'on entend par étranger. Qu'est-ce que c'est que étranger? Qu'est-ce que c'est aussi que démocratie dans un contexte qui est désormais un contexte mondialisé? Qu'est-ce que c'est qu'étranger? Qu'est-ce que c'est que démocratie dans une configuration planétaire? Qu'est-ce que c'est qu'étranger? Qu'est-ce que c'est que démocratie face à des phénomènes d'émergence de pays à forte croissance nouvelle, pas si forte que ça, puisque les croissances elles-mêmes se tassent récemment, je pense en particulier au Brésil, mais aussi à la Chine. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez qu'on procède. Vous voulez commencer? Pierre Hassner, qu'on ne présente pas, mais que je présente quand même, directeur de recherche émérite au CERI, à qui je passe la parole.
Je voudrais prévenir que la discussion, s'il y en a une, elle serait un peu anarchique parce qu'on a un peu flotté sur le sujet dont nous allions parler. Je crois que Camille est restée plus fidèle à ce que nous avait été d'abord proposé et parlera de l'étranger, de la Chine, etc. Moi, je croyais qu'on avait changé de sujet, que c'était la démocratie internationale. J'avais proposé trois ou quatre thèmes ou subdivisions là-dessus. Alors, je passe très rapidement sur les trois ou quatre directions que j'indique, sans les développer. Et puis, j'essaierai de répondre à ce que Camille a à dire sur la Chine, par exemple, à laquelle je ne connais rien, etc. Alors, démocratie internationale. Démocratie, d'abord, dire un mot qui ressort de ce qui avait été dit, c'est que la conception d'Aron, c'est pas par hasard qu'il oppose régime constitutionnel pluraliste et totalitarisme. Le titre, c'est démocratie et totalitarisme, et le sujet, c'est les régimes constitutionnels pluralistes. Et sa conception de la démocratie, c'est quelque chose de complexe où il y a des élites, mais la grande question, c'est si ces élites sont divisées ou pas, ouvertes ou pas, et donc pas la démocratie unanimiste, spontanéiste, etc. Et c'est important parce qu'il me semble que aujourd'hui, ce modèle de démocratie est assez malade et qu'on a des élites oligarchiques et un populisme brutal qui s'y oppose et que la fonction de médiation et de gestion de la complexité qui devrait être celle des élites n'est pas vraiment rempli. Alors, il y a une discussion qui occupe la science politique américaine énormément, c'est la paix démocratique. On a redécouvert Kant et il y a un article célèbre de Michael Doyle, il y a je crois 15 ans à peu près, qui a lancé une discussion qui n'en finit pas de savoir si les démocraties ne se font pas la guerre. Il est clair qu'ils ont fait la guerre des régimes totalitaires, qu'ils ont fait des guerres coloniales, mais entre elles, non. Et derrière, il y a un peu cette idée du XVIIe, XVIIIe siècle que les guerres viennent du fanatisme de la religion ou viennent de la volonté de puissance des rois, des conquérants. Une fois que ça sera l'intérêt individuel, les gens ne vont pas être assez fous pour s'envoyer eux-mêmes au casse-pipe. Et d'autre part, la liberté des modernes qui se soucient du privé et l'avertissement très fort de Benjamin Constant. Sparte, c'était peut-être très beau, mais si vous voulez transformer des modernes en spartiates, vous aurez une tyrannie. Les Romains, c'était très beau, mais si, comme Napoléon, vous voulez transformer des Romains, des modernes en conquérants, ce sera encore une théorie. Et contre ça, il y a l'idée que malgré tout, il y a des passions démocratiques très fortes et qui peuvent être belliqueuses, que la guerre en dentelle, limitée selon des lois, c'était plutôt les guerres aristocratiques et qu'avec la levée en masse, avec la nation, les guerres deviennent impitoyables, idéologiques, etc. Et enfin, la position, comme d'habitude, de Tocqueville, très nuancée, disant que les démocraties ont beaucoup de mal à commencer les guerres et beaucoup de mal à les finir. Que d'abord, ils ont une vue pacifique, elles ne comprennent pas les ennemis. Une fois qu'elles comprennent, ils les démonisent et il faut la capitulation sans condition. Il n'est pas question. Et des gens comme Kissinger ou Kennan se lamentent éternellement en diplomate professionnel de la manière dont les peuples, l'opinion publique, les sondages viennent troubler. troubler leur politique à long terme. C'était un débat qu'il y avait sous la Troisième République. Maurras citait Marcel Samba, je crois, directeur socialiste, disant « faites un roi ou sinon faites la paix », parce que les démocraties, les gouvernements changent, ne peuvent pas avoir une politique continue et dirigée par l'intérêt national. Alors ça, c'est une première direction. Deuxièmement, la démocratie et ses adversaires. Aron disait démocratie et totalitarisme. Aujourd'hui, les religions séculières, le totalitarisme sous sa forme originelle existe en Corée du Nord, existe un type de survivance. Les mouvements totalitaires continuent à exister, les passions totalitaires encore plus. Mais ce qu'on a, on a affaire à aux religions tout court, et non pas aux religions séculaires, au fanatisme religieux qui ressurgit. Et on a recours à cette espèce qui nous occupe, et là on rencontre peut-être la préoccupation de Camille, c'est les autoritarismes post-totalitaires, c'est-à-dire la Chine et la Russie qui continuent à être des régimes dictatoriaux, même la Russie le redevient de plus en plus, mais qui n'ont plus la légitimité de leur philosophie de l'histoire, qui sont quand même à la recherche d'une légitimité nouvelle. Alors c'est très net en Russie où Poutine, à mon avis, se rapproche plutôt du fascisme, c'est-à-dire un régime autoritaire, mais qui maintient l'Église, maintient la vieille Russie et maintient l'idée de forteresse assiégée, de virilité, etc. J'ai été frappé cette semaine de deux journaux différents. L'un avait le titre « La Russie répression et récession », tandis que l'autre avait les deux mamelles de la Chine, innovation et répression. Et donc il y avait répression dans les deux cas, mais la Russie qui sent qu'elle devient un régime rentier, qui n'a que le pétrole, mais n'arrive pas du tout à se moderniser, la corruption est commune à elle, mais pas seulement à elle, la Chine a un grand dynamisme, ça se ralentit peut-être, tandis que la Russie essaye, comme on voit ce qu'elle fait en Syrie, etc., de se donner un rôle de Nusensweil, d'empêcher les autres d'agir contre elle, et de se présenter comme se défendant contre des manœuvres de l'extérieur, etc. Alors, quels peuvent être les rapports avec ces régimes qui ne sont pas messianiques au sens des régimes totalitaires classiques, mais qui ne sont pas démocratiques et qui peuvent aller par des de légitimité vers des attitudes hostiles qui peuvent être dangereuses sur des... Je suis sûr qu'en même temps, elles sont très interdépendantes avec le monde capitaliste et ne peuvent pas s'en passer, et lui-même ne peut pas se passer d'elles. Et en même temps, on a l'impression qu'elles cherchent querelle sur les îles japonaises, sur tout ça. Tous les voisins de la Chine, y compris les Vietnamiens, ce qui est ironique, font appel aux Américains, ne partez pas et maintenez l'équilibre contre elles. Alors ça, c'est au niveau des unités politiques. Au niveau plus global, il y a le système international, c'est discuté longuement dans Paix et Guerre, la paix par la loi. Alors on n'y connaissait pas beaucoup, j'ai vu toute une séance de juristes sur le droit et relations internationales. Oui, il se plaisait, on n'a pas de discussion, et plaignait, on n'a pas eu de discussion avec Aron, parce que Aron, au fond, ne considère pas le droit international comme important, etc. Les juristes internationaux sont très vexés. Mais Aron dit, il y a la paix par l'équilibre, la paix par la loi, la paix par l'empire, aucune n'est garantie, certainement pas par la paix par la loi, et donc finalement il conseille la prudence, etc. Mais encore plus, me semble-t-il, il était sensible, surtout, j'ai toujours dit que moi, ce que j'aimais le mieux, c'était les guerres en chaîne, que je trouvais la paix et guerre un peu trop statique et binaire. Il y a les conflits internationaux, il y a l'intérieur, alors que dans le concret, y compris dans paix et guerre, il y a dans paix et guerre ou dans Clausewitz des petits chapitres sur gagner ou ne pas perdre, où la guerre est un caméléon, où tout ce qu'on a vécu en Irak, en Afghanistan, etc., est prédit, et qu'on découvre maintenant que celui qui est l'insurgé, il est chez lui, il lui suffit de rendre la vie impossible au libérateur ou conquérant lointain, comme on voudra. Un jour, celui-ci, son opinion publique, en aura assez, il se retirera, tandis que eux resteront, etc. Il y a des analyses extrêmement fines de la guérilla, de tout ça. Mais le cadre conceptuel de paix et guerre, me semble-t-il, c'est une vieille discussion, objection que je lui posais, me paraît trop rigide et trop dualiste, alors que dans les guerres en chaîne, il démontre admirablement comment les révolutions amènent les guerres amènent d'autres révolutions, les révolutions amènent d'autres guerres, la dialectique entre l'intérieur et l'extérieur, l'économie de guerre, la surprise technique, la propagande à cause de la guerre, durée de la guerre, etc. Et dans dimension de la conscience historique, il y a cette dualité du procès et du drame. Le procès, le progrès économique, on n'a plus intérêt à faire la guerre, mais le drame, le choc des héros, des volontés de puissance. Dans le livre même, Thucydide et Kant, où moi j'ai suivi ces deux auteurs qui pointent dans deux directions différentes. Et modestement, il dit, on ne sait pas si c'est le progrès qui digérera le drame ou le drame qui mettra brutalement fin au procès. Donc il y a cette question de la structure du milieu international. Est-ce qu'elle peut être, est-ce que l'égalité des nations est réelle ou est un mythe? Avec le Conseil de sécurité, on voit bien, il peut tout bloquer, etc. C'est à la fois anarchique, mais si quand, dans la mesure où c'est structuré, c'est plus classiquement hiérarchique qu'autre chose. Enfin, là on rejoint certaines des choses qu'a dites Daniel Cohen, il n'y a pas que cette structure, il y a le processus, les réseaux, la mondialisation qui change beaucoup, qui brouille énormément les frontières entre le public et le privé. Je ne sais pas si vous savez que plus de la moitié des Américains en Afghanistan ou en Irak sont contractuels, sont des gens du privé. Il y a un nouvel âge du mercenariat, un nouvel âge des pirates, il y a toutes sortes de manière dont on peut parler d'une certaine façon de désagrégation de l'État. Ce qu'on apprend tous les jours aux États-Unis, on ne sait pas qui est-ce qui envoie des drones, est-ce que c'est la CIA, est-ce que c'est l'armée, on le dit, on le dit pas, on reçoit des choses dont on ne sait pas d'où elles viennent, et il y a les réseaux sociaux, etc., qui influent sur la politique étrangère. Quelqu'un comme Kissinger, qui est un génie diplomatique, mais se trompe à chaque fois parce qu'il ne tient pas en compte les réactions des sociétés qui communiquent à travers le monde et où la métropole ou bien d'autres gens ailleurs réagissent aux calculs purement diplomatiques ou de puissance. Donc voilà les différentes directions que je voyais sans les développer, mais je suis prêt à essayer de m'adapter dans les limites de mon ignorance aux institutions de ces pays étrangers qui ne sont pas l'angle que je connais mal. J'ai fait un livre sur Washington et le monde avec mon ami Justin Weiss. Moi je faisais l'extérieur, les options stratégiques, et lui faisait le decision making, et qui fait quoi, et le jeu des institutions. Alors j'ai lu il y a 10 ans ce qu'il a fait, mais ce n'est pas mon aire de compétence. Voilà mon entrée à moi.
Merci Pierre. On est en fait parti dans des directions assez voisines, donc je suis rassuré de ce point de vue-là. Je crois que quand on parle de démocratie et d'institutions internationales, finalement, effectivement, mon point de départ était de partir de la question du capitalisme autoritaire chinois, en se disant au fond, quel est le problème que nous pose dans un système qui est moins idéologique et qui, de ce point de vue-là, se distingue de celui qui a pu être décrit dans Paix et Guerre et dans la compétition bipolaire traditionnelle, où l'idéologie n'est pas aussi centrale, même si le Parti communiste chinois fait du maintien de son pouvoir et du maintien de l'oligarchie actuelle au pouvoir l'élément central de sa politique. D'ailleurs, Xi Jinping a expliqué dans les premiers jours de son mandat que ça se faisait même au détriment de l'armée, sur laquelle il fallait que le parti conserve un contrôle absolu. Donc il y a un certain nombre d'ambiguïtés. Mais ça pose une question qui est comment, dans un système international qui n'est pas forcément marqué par des compétitions idéologiques classiques, on peut voir évoluer ce dispositif. et comment notamment la montée en puissance de la Chine comme acteur majeur pose une question. Alors, je fais une petite parenthèse sur la manière dont Aaron percevait cette montée en puissance de la Chine, parce que c'est assez amusant. La Chine a une place bien moindre que les États-Unis ou l'Union soviétique dans l'œuvre de Raymond Aron. Et en même temps, il identifie sa spécificité très tôt. Et le fait qu'elle ne soit pas, il ne la traite pas comme un simple satellite de l'Union soviétique. Il reconnaît qu'elle a une dimension étatique très forte, que c'est la restauration d'un modèle impérial. Il y a toute une série de pages assez intéressantes sur notamment la dynamique entre Chine et Japon et la restauration de la puissance chinoise sous le régime communiste face à un Japon défait. Mais il la regarde toujours un petit peu comme un élément secondaire du système international. Finalement, en se prononçant, il est très favorable et très heureux de voir la Chine rompre avec l'Union soviétique. Il y voit une opportunité. Et il se prononce d'ailleurs dans un article de l'Express, c'est assez amusant, pour les livraisons d'armes modernes à la Chine de la part des Européens à la fin des années 70, en souhaitant ces livraisons et en notant que peut-être ses arrière-petits-neveux de 2078 lui reprocheront cette prise de position. Alors, on n'est pas encore en 2078, donc on verra si cette précaution était nécessaire, mais elle me semble intéressante dans ce dispositif. Mais c'est vrai qu'il n'a pas pensé la Chine comme puissance globale, au sens où d'ailleurs il juge que la modernisation engagée par Deng Xiaoping est une modernisation qui, à l'horizon 2000, qui est celui qui se donne, sera essentiellement militaire, mais pas principalement économique. On voit que les 15 années supplémentaires ont d'ailleurs pas mal changé ce dispositif. Ce qui pose la question de la relation Chine-États-Unis dans le système international actuel, et de s'interroger sur comment ces pays qui ne sont pas fondamentalement en compétition idéologique. C'est d'ailleurs assez amusant la mise en scène de la relation entre Barack Obama et le nouveau président chinois, où les Chinois s'empressent d'adopter les codes américains à plusieurs égards, la promenade dans le ranch en bras de chemise, tout le dispositif, y compris thématique et médiatique, et ça c'est assez, moi je trouve très intéressant, la mise en avant par Xi Jinping du rêve chinois comme un horizon. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. On dit qu'il a pris ça à un éditorialiste du Herald Tribune, à Friedman, parce qu'il trouve que c'est une manière extraordinairement américaine de positionner une sorte de vision stratégique dont le contenu n'est pas forcément très clair. Mais c'est un petit peu comme quand les Américains parlent de New American Century, comme d'un horizon intéressant. Alors, la question qui est posée à travers ça, c'est effectivement la question de la démocratie et de la guerre. C'est-à-dire que si on part de l'idée que les démocraties ne se font pas la guerre, il y a un autre politologue qui avait voulu relever que c'était les pays où les McDonald's étaient installés qui ne se faisaient pas la guerre. Je crois que cette prédiction a été démentie par la guerre russo-géorgienne. Mais de fait, on est dans un dispositif où la question est de savoir si les États interdépendants ne se font pas la guerre et dans la relation entre Chine et Russie et États-Unis. Les très fortes dépendances économiques croisées entre les deux pays, en termes de partenariat commercial, l'achat de bons du trésor américain par la Chine, seraient susceptibles de créer une interdépendance telle qu'elle rendrait la guerre impossible. On sait ce que les prédictions de ce genre avant le premier conflit mondial ont pu donner. En réalité, la grande difficulté, et c'est là qu'on retrouve des thèmes importants de Aron que Pierre a évoqué, c'est le glissement en Asie d'une paix par l'hégémonie américaine vers une autre forme de paix, si c'est bien l'objectif de maintenir la paix, et qui soit fondée sur ou l'équilibre des puissances, essentiellement l'équilibre entre Chinois et Américains, ou bien, et j'y reviendrai dans un instant, une forme de paix par la terreur qui réintroduise l'arme nucléaire comme ultima ratio de la relation entre grandes puissances. Alors, Aron définit la paix comme la suspension plus ou moins durable des modalités violentes de la rivalité entre unités politiques, ce qui est une définition un petit peu pessimiste, on pourrait dire, puisqu'il n'y voit pas une situation forcément pérenne. Pierre rappelait les différents modes de paix, la paix impériale, hégémonique ou d'équilibre, ce qui, tout en soulignant, je crois, et ça c'est un des points essentiels de son enseignement là-dessus, c'est l'importance de la précarité de ces dispositifs. Et ça c'est quelque chose qu'on a peut-être en Occident et en Europe en particulier tendance à oublier, tant on tient pour acquis la préservation de la paix, et en particulier de la paix entre grandes puissances, comme étant un élément essentiel. Et finalement, la question qu'on peut se poser, et qui aujourd'hui est au cœur d'une partie des débats de la communauté stratégique, c'est de savoir si dans la relation sino-américaine, on va avoir ce glissement vers une paix d'équilibre et finalement un rééquilibrage du jeu des puissances en Asie qui ne s'accompagnera pas par des tensions excessives, au-delà de celles qu'on voit d'ores et déjà sur le contrôle des îlots sino-japonais, sino-vietnamiens en mer de Chine du Sud, en mer de Chine orientale, etc. Mais un glissement vers un dispositif beaucoup plus inquiétant qui réintroduirait une paix par la terreur fondée sur une rivalité de puissance, une course aux armements et la menace atomique qui fait évidemment partie du paysage compte tenu de la modernisation nucléaire chinoise. Au fond, la seule paix qui semble improbable, c'est le modèle qui l'écarte justement comme lui donne une connotation un peu improbable, qui est la paix de satisfaction, où toutes les unités politiques seraient heureuses, vivraient et se contenteraient du statu quo. Et du coup, dit-il, la paix par l'empire ou la paix par le droit, celle des juristes internationaux, justement, deviendrait possible, toute la question étant que dans le système actuel, ce règne de la loi, qu'ancien, dans lequel les États s'engageraient, je cite, à obéir aux décisions d'un arbitre, d'un tribunal, d'une assemblée, et ne douterait pas que cet engagement soit honoré de tous, lui semble très, très improbable. Et c'est vrai que dans le système international actuel, cette adhésion universelle au statu quo est loin d'être garantie du fait de l'existence d'un certain nombre, évidemment, d'États que Aron appelle criminels, que d'autres, comme Thérèse Delpech, ont appelé perturbateurs, qui contestent l'ordre international, l'ordre régional, et ne se satisfont pas du statu quo et du modèle démocratique occidental qui tente d'imposer ce statu quo. Alors on pense à l'Iran, la Syrie ou la Corée du Nord, mais on peut s'interroger sur le positionnement de la Chine dans ce dispositif. Est-ce que la Chine est une puissance de statu quo? Je pense que ça pourrait être un des points de notre débat. Pour conclure, ces propos liminaires et lancer la discussion avec Pierre, il me semble qu'il y a une question sur la question démocratique dans le système international. Je crois qu'on se trouve en effet devant un paradoxe. D'une certaine manière, la démocratie a progressé indiscutablement par rapport à l'époque où Aron écrivait. Il y a plus de régimes démocratiques, aussi imparfaits soient-ils. Il y a une généralisation de la démocratie en Amérique latine, en Europe orientale, en Asie, sauf en Chine et dans quelques systèmes qui s'apparentent encore à une idéologie communiste. On voit même les progrès en Afrique ou au Moyen-Orient, avec évidemment toutes les ambiguïtés que Pierre rappelait sur le fait que ces démocraties ne sont pas forcément des régimes pluralistes parfaits, et loin s'en faut, et le cas de la Russie de Poutine est assez intéressant. Mais finalement, et c'est un des points qui me semble les plus intéressants à étudier aujourd'hui, c'est de regarder cette vague de démocratisation ne conduit pas à un réalignement du système international autour d'une opposition entre régime démocratique et régime autoritaire. Et finalement, on se trouve au contraire dans une situation où les grandes démocraties du Sud, même celles qui sont des démocraties, je dirais, parfaites ou en tout cas de vraies démocraties, s'attachent davantage à la question de la souveraineté qu'à celle de la démocratie. Et ça, c'est une question, et en regardant en particulier, je pense, des pays comme le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud, sur des dossiers comme celui de l'Iran ou de la Syrie, qui prennent des positions très souvent en opposition avec les démocraties occidentales, et qui, de ce point de vue-là, en mettant l'accent de la défense de la souveraineté et de leurs intérêts, se placent au détriment de valeurs universelles qui sont celles portées par les démocraties occidentales, créant une difficulté pour les Européens en particulier, qui en réalité se trouve assez seul à défendre l'idée d'un système international post-westphalien marqué par la coopération et la globalisation, ce qui redonne toute une actualité à une lecture aronienne plus classique d'États motivés par leurs intérêts et en compétition, dans lequel finalement la paix n'est pas forcément un état durable des relations internationales. Et je m'arrête.
Je pourrais reprendre, accrocher des choses à ce que tu as dit, qui sont, premièrement, les nouveaux États. D'ailleurs, on peut penser, pour plus généralement, pour développement politique, etc., à la cause démocratie autoritaire. On ne sait pas, comme Perrine, je crois, y a fait allusion, il y a eu une époque, même quand Kennedy a été élu en 60, la grande note, c'était les taux de croissance russes. Il y a des gens parfaitement compétents, comme Alfred Sauvy, Lauré, j'ai oublié son prénom, qui était un grand commis, l'inventeur de la TVA, je crois, disait il faudra empêcher, d'essayer les frontières, empêcher les ouvriers d'aller là-bas. Était tout à fait contre cette idée, mais quand même, nous discutions, il y a eu un congrès du Congrès pour la liberté de la culture à Milan sur les taux de croissance soviétique où il y avait Colin Clark contre Peter Wiles. Aron était un peu neutre. Il y avait ces grands taux de croissance, mais il pensait bien qu'à long terme, ce n'était pas eux qui allaient gagner. Maintenant, il y a une chose semblable entre la Chine et l'Inde, où l'Inde est une démocratie, mais pratiquement, toutes les deux sont extrêmement corrompues, mais en Inde, ça empêche l'administration. Ils respectent les vaches sacrées que détestait Kojève et ils respectent des tas de choses, mais du coup, leurs infrastructures sont lamentables, apparemment. Et la Chine a adopté des grands travaux et a adopté des folies, comme le grand bond en avant, qui ont fait des dizaines de millions de morts, etc. Donc, c'est une nouvelle, comme c'était entre Occident et Est, il y a une nouvelle course entre la Chine et l'Inde, dont on ne sait pas, qui pour l'instant a l'air plutôt à l'avantage de la Chine, mais laquelle a elle-même ses propres inconvénients. Pour ce que tu disais à l'instant, c'est tout à fait juste. Il y a quelqu'un qu'on connaît dans le milieu, Kishore Mahbubani, qui avait beaucoup écrit « The West and the Rest » et disait qu'il faut que l'Ouest s'habitue au siècle de l'Asie, etc. C'est nous. Maintenant, il a sorti un livre très étonnant qui s'appelle « The Great Convergence » et où il dit on va converger dans le même modèle, en fait je crois inspiré par l'Asie, et du coup l'ONU reprendra sa grande force dont les Occidentaux l'ont toujours privé. Or ça a l'air d'être le contraire, que plus il y a de multipolarité, moins il y a de multilatéralisme, parce que c'était quand même en gros les Occidentaux qui manipulaient, et les Européens sont en effet les plus multilatéraux. En même temps, ils n'ont aucune envie d'avoir un conseil de sécurité un peu plus conforme aux réalités, de céder leur place au Japon ou au Brésil. Chaque continent se dispute pour savoir qui sera son représentant. Donc, ça me paraît en effet très bloqué. Pour la Chine, je voudrais rappeler, peut-être quelques-uns parmi les plus âgés se rappellent Lothar Rühl, qui a été longtemps correspondant d'un journal allemand à Paris, et qui ensuite a été ce secrétaire à la défense en Allemagne, qui avait interviewé Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping lui a dit pour les 50 prochaines années, mon ambition est que la Chine devienne une puissance respectable et respectée. Après, on verra. Et tout est dans ce on verra. Et j'ai vu aussi un sinologue, je crois il s'appelle Nathan, qui disait qu'il y avait eu un sondage parmi les sinologues où il s'était divisé en trois parties égales sur est-ce que la Chine va devenir un pays capitaliste comme le Japon, ou est-ce qu'il va vouloir avoir sa revanche sur l'époque où il était opprimé par la guerre de l'opium et par interdit aux chiens et aux chinois à Pékin, etc. est-ce qu'il a sa révolution post-communiste devant lui et il y aura de nouveau une guerre civile, etc. Et les sinologues du mouvement américain se sont divisés en trois parties égales. C'est-à-dire que personne ne sait où la Chine en sera. Et je dirais, j'y ai fait seulement allusion, c'est les genres de choses dans lesquelles je suis le plus actuellement, et peut-être demain matin, nous allons parler à la FRS, c'est les nouveautés stratégiques qui viennent de la cybernétique, des drones et des réseaux sociaux, et en général du fait que les unités politiques ne sont plus ce qu'elles sont, qu'il y a, comme a dit quelqu'un, des guerres géocivils, qu'il y a une implication du local, du régional et du global, comme on voit au Moyen-Orient, et que des querelles auxquelles on ne prêtait pas grande attention entre sunnites et chiites vont faire sauter le Moyen-Orient. Et surtout, prenez la cybernétique, il n'y a plus en un sens de vraie guerre, la conduite diplomatico-stratégique dont parlait Aaron avec les pirates, les mercenaires, etc. Et surtout, l'évolution technique que tu connais mieux que moi, tu pourrais me démentir ou pas, fait qu'il y a une certaine égalisation, qu'il y a des choses qui peuvent être faites par des individus ou des petits groupes qu'on croyait ne pourra être faites que par les États. Et que surtout, on ne sait pas par qui nous faisons tous les matins, surtout moi qui me bats impuissant avec l'ordinateur, avec les scams que nous recevons tous, les propositions de la fille d'un général inconnu africain qui demande l'autorisation de mettre son argent sur notre compte ou je ne sais pas quoi. Nous avons des gens qui nous veulent du mal ou qui veulent nous escroquer, nous ne savons pas qui c'est. Et de même, la Chine, l'Amérique, ils s'envoient des virus Stuxnet sur l'Iran, et qui affectent des tas d'ordinateurs occidentaux. Donc on ne sait pas, il y a des progrès extraordinaires dans la précision, mais on n'a pas de garantie qu'elles n'ont pas des conséquences pour ceux-mêmes qui les emploient. Et d'autre part, il me semble qu'il y a ces choses sur lesquelles un certain nombre de gens, dont moi, réfléchissent. J'ai fait un petit article sur les nouvelles guerres entre la bombe humaine et le drone. C'est-à-dire, par rapport à la conception classique de la guerre, deux armées ou deux chevaliers qui se battent, il y en a un qui va, et chacun essaye, s'il le faut, de tuer l'autre et de se préserver lui-même. Et il y a d'une part l'attentat suicide qui, quand même, a des conséquences pour la dissuasion. Personnellement, je ne crois pas que l'Iran est prêt à se suicider comme nation, et je crois que ça serait une calamité si on l'attaquait préventivement. Mais enfin, c'est un fait qu'il y a que la dissuasion repose sur la peur du suicide virtuel, et que celle-ci est entamée par le fait qu'il y a des gens qui croient que c'est un ascenseur direct vers le paradis si on tue l'étranger qu'on meurt avec lui. Et d'autre part, le drone, c'est vous êtes dans le Nevada et tranquillement vous prenez votre petit déjeuner, vous allez envoyer un drone, vous revenez pour le déjeuner, etc. Ce qui, paraît-il, il y en a des articles vengeurs dans la revue Défense Nationale disant ça c'est les Américains, ils ne savent pas, c'est zéro mort, ils ne savent pas qu'on ne peut donner la mort que si on risque la mort elle-même. C'est peut-être vrai pour les Français, mais c'est encore plus vrai pour d'autres cultures non occidentales. Il paraît que Carl Schmitt, dont on parlait, a essayé d'utiliser ça pour dire les véritables criminels contre l'humanité, c'est les Américains avec leur bombardement, parce que c'est le feu du ciel, ce n'est pas le gouvernement, le combat, la loyale, etc. Mais il y a tout ce thème que les dissymétries, d'une part, le pouvoir des États sur les sociétés, des grandes nations contre les petites, pourquoi les grandes nations occidentales perdent l'une après l'autre leurs expéditions ailleurs. Ça, Spengler l'avait déjà dit dans les années 30, que la technologie se répand beaucoup plus que les cultures, et que notre technologie dans des cultures différentes, de l'honneur ou du sacrifice, etc., peuvent donner des résultats inattendus. Donc moi, j'ai ce sentiment qu'on est dans un monde très, tout à fait imprévisible. Qu'il y a, pour par exemple les drones, il y a deux utopies extrêmes, celle de Fukuyama, que actuellement c'est très cher, mais ça ça deviendra moins cher. Et donc chacun, s'il a quelqu'un qui n'aime pas à 10 000 km, il lui enverra un drone et l'autre la tombe sur la tête, il ne sait pas d'où ça vient, etc. Et l'autre, c'est les guerres de robots tout seul, où il n'y aura plus, comment c'est l'expression, human in the curve.
In the loop.
Voilà, il n'y aura plus l'humain humain dans le loop. Et voilà, enfin, la science-fiction, mais il y a des gens qui travaillent et ont fait aux États-Unis des manuels de morale pour robots. Parce qu'on explique que si les robots, il y a des tas de morts, même faits par les Américains, pour venger un camarade, ils se mettent à tirer de tous les côtés, ben, un robot ne fera jamais ça. Mais d'un autre côté, un robot ne reconnaîtra pas au dernier moment que c'est une noce et non pas un ensemble de guerriers, etc., puisqu'il a été programmé pour. Donc, on est maintenant dans un domaine de science-fiction extraordinaire, mais dont, quand même, en particulier la cybernétique, donne une impression. Je me rappelle que dès à l'époque où je m'occupais plus des stratégies, dans les années 60, des gens comme Hermann Kahn parlaient de guerre catalytique, d'un petit État qui pourrait bombarder un grand pour provoquer une guerre entre les deux grands. Mais maintenant, ça devient beaucoup plus réaliste, parce que personne ne sait d'où vient ce qui vous tombe dessus. Alors, bon, je ne sais pas ce que tu penses, parce que tu connais mieux ces choses que moi, de ces perspectives un peu terrifiantes d'anarchie internationale, où la conduite diplomatique stratégique des États n'est qu'une des choses parmi d'autres qui ont lieu.
Je vais rebondir sur trois points, et en particulier ces derniers points. Le premier, qui est effectivement le débat entre multipolarité et multilatéralisme. Tu es un de ceux qui a clarifié ce débat où la France s'était toujours prononcée pour un ordre multipolaire, alors que ce qu'elle appelle de ses voeux, c'est le multilatéralisme. Donc il y avait une sorte d'ambiguïté diplomatique qui n'est pas totalement résolue, mais où en fait, en se prononçant contre un monde, pour un monde multipolaire, on se prononçait contre un monde unipolaire dominé par les Américains, alors que la vraie motivation, c'est d'avoir un système multilatéral fonctionnel dans lequel les institutions internationales puissent remplir leur rôle de préservation de la paix et du système. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a l'émergence d'un système davantage multipolaire, mais qui se fait en réalité assez largement au détriment des institutions multilatérales qui sont paralysées, en particulier les Nations Unies. On le voit autour de la crise syrienne en particulier. Le deuxième point que cette conversation m'inspire, c'est un point qui me semble intéressant, c'est le retour de la géopolitique. Et c'est très très frappant en Asie. C'est-à-dire de voir à quel point les grandes visions géopolitiques réapparaissent. J'étais en Australie il y a quelques jours où ils ont un grand débat entre Mahan et Mackinder.
Ah bon ?
C'est-à-dire entre le débat entre le dispositif des puissances continentales et les puissances maritimes. Et au fond, ils se pensent comme une île qui doit son avenir et son indépendance à son alliance avec la puissance maritime, les États-Unis, face à une puissance continentale chinoise qui va progressivement imposer son emprise sur sa périphérie dès lors qu'elle est terrestre et son immédiate périphérie maritime. Et c'est finalement cette opposition entre les deux éléments. On voit aussi le retour de la géopolitique dans la pensée de quelqu'un comme Brzezinski, qui n'y a jamais totalement renoncé, mais qui insiste là-dessus, y compris d'ailleurs jusque dans des formes un peu de caricature. Je l'écoutais l'autre jour expliquer que la Russie n'avait d'autre choix que de s'allier avec l'Occident. Alors, il y avait beaucoup de Russes qui étaient sceptiques. Et quand ils nous ont expliqué et interrogé sur cette affirmation, il a dit, de toute manière, sinon elle deviendra un satellite de la Chine. Donc, une sorte de jeu de géopolitique très traditionnel, en réalité, qui ressemble beaucoup au concert des puissances, au balance of power du jeu européen, qui est compliqué. Alors, dernier point sur la question des technologies et de l'asymétrie. Effectivement, c'est sans doute un des éléments les plus intéressants sur l'évolution du système international, dans la mesure où les normes standards de la puissance se trouvent un peu bousculées par l'émergence de ces nouvelles technologies qui permettent à des acteurs de deuxième ou de troisième rang de disposer d'outils les mettant en avant. Alors,
la lecture classique s'est beaucoup attachée à la question de la prolifération nucléaire, mais ça, ça commence, on peut dire, avec la France, d'une certaine manière. Comme disait, je ne sais plus si c'était Lothar Rühl, justement, ou quel ministre allemand disait que la France voyageait avec la bombe en première classe avec un billet de seconde. Finalement, cette recherche des technologies nucléaires reste, la dynamique reste assez sensiblement la même. Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'introduction des technologies comme les cyber ou le drone, qui rendent accessible à des puissances moyennes ou émergentes des outils militaires qui leur permettent de contester la supériorité militaire occidentale, on dit occidentale gentiment, en fait c'est américaine, par ces outils. Il y a eu un article qui est paru il y a quelques semaines aux États-Unis qui souligne que la US Navy veut acheter un porte-avions pour 15 milliards de dollars dans la nouvelle génération de porte-avions, et que ce porte-avions peut être coulé par un missile chinois qui vaut 10 millions de dollars et qui maintenant sont des missiles. Les Chinois développent des missiles balistiques faits pour frapper des cibles en mer et qui sont extraordinairement difficiles à intercepter et qui rendent du coup la supériorité aéronavale américaine sans objet. Alors évidemment, c'était un article qui était sponsorisé par l'US Air Force pour montrer que la Navy dépensait dans des technologies obsolètes, mais on voit quelque chose qui est intéressant. De la même manière, le commandant qui vient de démissionner des forces américaines en Europe, le SACTUR, a fait un papier pour parler de la nouvelle triade. Alors c'est amusant parce que c'est du vocabulaire nucléaire, pour parler des drones, des forces spéciales et du cyber comme étant le nouvel outil de choix pour mener les guerres. Et comme la réponse finalement asymétrique des puissances conventionnelles comme les États-Unis au défi asymétrique que représente le terrorisme et les différents...
Les drones, des gens qui fabriquent ont dit exactement cette formule, c'est une réponse asymétrique à une menace asymétrique.
Du coup, le débat actuel aux États-Unis sur les drones, où effectivement les drones ont été employés hors du théâtre de conflit depuis plus de 10 ans, essentiellement en Pakistan, mais aussi au Yémen, en Somalie, et aux Philippines, pour des frappes donc dites ciblées, pose une vraie question, parce que il y a toute la question de la légitimité de ce type d'action qui prend complètement à contre-pied les règles de base du système international.
Les trois, c'est très intéressant parce que les trois choses que tu viens de citer, je ne connaissais pas cette déclaration de choses, sont trois choses qui toutes sont ambiguës, à moitié secrètes. Les forces spéciales, on ne sait pas, les cyber, on ne sait pas, les drones non plus. Donc c'est bien ce que je dis, c'est que la frontière, il y a toujours eu des espions, des choses qu'on fait, etc. Mais là, ça s'étend énormément, ça devient central. Plus c'est ambigu, plus c'est central. C'est ça
ça prend une certaine centralité dans la stratégie américaine. Voilà. Et le plus grand défi intellectuel, et c'est là que on nous manque sans doute pour penser tout ça, c'est la manière de relier ces différents éléments. C'est-à-dire notamment, par exemple, l'intégration dans la réflexion sur le classique sur la dissuasion de ces nouvelles technologies. Le livre posthume de Thérèse Delpech pour la Rente avait commencé à raccrocher ces différents éléments et comment est-ce que le cyber pouvait apporter, devait être intégré dans notre réflexion sur la dissuasion aujourd'hui. Et au fond, la vraie question qui se pose, et c'est assez intéressant, je reviens à l'actualité, dans le sommet entre Obama et Xi Jinping, c'est le fait qu'ils ont officiellement discuté des attaques de hackers croisés. On a une boîte américaine a identifié l'immeuble dont partent toutes les attaques chinoises. Il y a une unité qui s'appelle 63381 qui est chargée de ça dans l'armée populaire de libération, avec des hackers qui cherchent à récupérer non seulement des secrets d'État, c'est de l'espionnage classique, mais aussi d'État d'information économique, à récupérer tout ça. Et donc, d'une certaine manière, et les Chinois en ont profité immédiatement pour dire que le système chinois était lui-même victime d'attaques informatiques permanentes, etc. Donc, on a en fait une sorte de guerre à bas bruit qui a déjà lieu. Voilà. Et ça, c'était un point de difficulté dans la compréhension du système.
Ce que je voulais dire aussi, je crois que c'est tout à fait au centre du problème et tout à fait ce que je dis, c'est qu'il y a en plus aussi, au point de vue des populations, il y a les progrès de l'information, des réseaux sociaux, c'est que quelque chose qui se passe là, il y a des manifestations en Indonésie ou un truc comme ça. Et Brzezinski, qui, je crois, quand il parle de la Russie, veut, en bon polonais, veut surtout la baisser. Moi, j'ai vu expliquer que la Russie devait lâcher l'Ukraine parce qu'elle ne pouvait pas être à la fois un empire et une démocratie. Et sans l'Ukraine, elle n'était plus un empire, donc elle pouvait être une démocratie, tandis qu'avec l'Ukraine, l'empire, etc. Mais il a une formule qui est très, très bonne, je trouve, c'est Global Political Mobilization. C'est-à-dire, on ne peut plus, comme au Congrès de Berlin, etc., dire ben, on va donner la Bosnie à l'Autriche, géré par opposition aux Turcs, etc. Il y a un peu partout des populations en mouvement, etc. Et donc la géopolitique, ça c'est un sujet, j'ai fait une fois une conférence qui s'appelait « Faut-il enterrer la géopolitique ?» avec le mot un peu sur « enterrer » parce que c'est né dans l'opposition de la terre et de la mer, de l'ours et de la baleine, etc. Après quoi, il y a l'air. Et on a dit à un moment donné, quand on a inventé l'arme aérienne, Douai disait « les avions passeront partout ». Tout ça, il n'y a plus la distance. Chez Gallois, il y avait un peu cette tendance. On s'aperçoit que ça existe après. Il y a après l'espace, et maintenant il y a le virtuel. Alors, et d'autre part, je me suis beaucoup inspiré dans une de mes œuvres non écrites et qui ne le seront jamais, d'une phrase de Stanley Hoffman qui, en faisant le compte rendu du livre de Kissinger sur la diplomatie, disait c'est très bien, mais c'est extraordinairement classique. Et il faudrait pouvoir mettre les passions sur la carte comme on met les ports militaires ou les gisements de pétrole. Mais le point sur les passions, c'est qu'elles sont mouvantes et que c'est ce qu'on peut le moins prédire, les effets de contagion des passions et les réactions différentes selon les pays, comme on voit pour le printemps arabe, comme on a vu pour les révolutions de 1848, etc. Donc, moi, c'est cette perception que j'ai, ce que on est dans des mouvements contradictoires et ambigus où c'est très difficile de trouver des points fixes de traditionnels de la culture diplomatico-stratégique, l'équilibre, s'il y en a deux. Bismarck disait la politique internationale, c'est très simple, dans un système de cinq, il faut être parmi les trois plutôt que parmi les deux. Ça c'est devenu de plus en plus compliqué.
Je pense que comme le temps presse, on peut peut-être essayer de passer la parole à la salle. Moi, j'avais juste une question avant de la passer, parce que ce que vous dites l'un et l'autre est formidable et un écho formidable par rapport à l'actualité telle qu'on la lit dans les journaux depuis 2-3 jours avec cette histoire du détournement, en tout cas de la captation des données, en particulier des données des réseaux sociaux par l'agence de sécurité américaine. Et du coup, ma question, elle était double. La première, elle est plus technique, et est-ce que dans ce contexte-là, on n'a pas la superposition de l'idée de la prévention et l'idée de la dissuasion? Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, c'est est-ce que finalement, cette redéfinition des cadres mondiaux n'implique pas une redéfinition de ce que c'est que la démocratie, incluant cette exception devenue pérenne, cette intégration de l'idée de l'exception dans le fonctionnement de la démocratie à une menace asymétrique, doit répondre nécessairement de la part des forces démocratiques une réponse asymétrique.
Des questions aussi excellentes, on n'a pas de réponse.
Non, peut-être sur un mot sur la superposition, je crois que c'est effectivement une des données actuelles. C'était intéressant dans les débats du livre blanc français, où on avait, dans le livre blanc de 2008, voulu ordonner les choses dans un jardin à la française en disant il y a la prévention, la dissuasion, l'intervention, et que chacune de ces activités répondait à une certaine catégorie de matériel, de stratégie, etc., etc. On voit bien aujourd'hui que les lignes sont beaucoup plus floues. Hein, Pierre a écrit qu'on était dans un système flou et fluide. on est bien dans un système flou et fluide. Et ça, c'est une des grandes difficultés pour penser ce dispositif. On ne peut pas s'arrêter au constat de la fluidité, de l'incertitude. On fait, tu as fait référence, on fait demain à la Fondation une journée sur les incertitudes stratégiques.
L'idée, ce n'est pas de se contenter du constat d'incertitude, parce que sinon il est assez facile, mais de rentrer finalement dans la compréhension de ces incertitudes de manière à faire ça. Mais en même temps, ça oblige, et c'est tout le paradoxe, à couvrir tout le champ du possible. C'est-à-dire que, avec une dérive inflationniste sur les budgets militaires, pour notamment les États-Unis, qui ne veulent s'accorder aucune impasse. Et donc, on est dans un dispositif qui impose d'avoir à la fois les outils pour gagner la guerre nucléaire, la nouvelle triade pour vaincre le terrorisme, des outils de supériorité navale pour combattre l'influence croissante de la Chine en mer du Sud, de Chine du Sud. Et donc, finalement, un dispositif, et là, on revient sur des débats qui me paraissaient enterrés, c'est-à-dire les débats de Paul Kennedy sur l'hypertrophie du budget militaire conduit à l'atrophie de l'économie et donc au déclin de la puissance américaine. Alors, ce livre, en 87, fait sourire quand on a vu les deux décennies qui suivent, mais peut-être qu'il reprend aujourd'hui une actualité intéressante dont on voit au plan très politique la conclusion dans les débats sur la sequestration et donc tout le débat budgétaire américain qui est devenu d'une extrême difficulté, d'une extrême violence.
Et je vous remercie pour ce dialogue très intéressant qui d'ailleurs a laissé surgir, se dessiner un tableau qui paraît un peu en décalage par rapport à la situation de la conscience européenne, c'est-à-dire l'ambivalence que vous avez présentée de la donne, l'ambivalence du développement ne me paraît pas être représentée par l'opinion commune en Europe qui voit plutôt, peut-être pas depuis 2-3 ans, un certain développement heureux prend forme. Mais en tout cas, à partir de cela, j'ai une question pour Pierre Hasner, qui a toujours souligné dans ses travaux, d'une manière très fidèle à Arendt, l'ambivalence entre la coprésence, entre les procès, les nouveautés, et une certaine permanence, donc une certaine conscience d'une certaine problématique philosophique qui persiste. Et donc, est-ce que, à l'occurrence, aujourd'hui, vous avez souligné qu'il y a d'un côté l'évolution technique qui bouleverse toute chose encore, toujours plus en fait, et de l'autre, la persistance des passions. Je me demande si, après tout, vous considérez que les passions qui persistent sont toujours les passions éternelles de l'homme, disons que l'âme platonicienne pourrait encore bien représenter qu'est-ce qui se passe entre les peuples et chez les hommes, ou si vous pensez que la nouveauté technique développe des passions nouvelles qu'il faudra considérer dans notre considération de l'état du monde, de l'évolution, une radicalisation des passions peut-être de nature différente, où c'est l'âme ancienne encore là face à ces développements techniques.
Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir si je le savais, j'aurais écrit les choses que j'avais envisagé d'écrire, mais je n'en sais rien. Je crois qu'entre la technique et les passions, il y a les cultures qui sont différentes. Et c'était la question qu'on pouvait se poser quand Fukuyama a fait son premier article, parce que son idée, c'était vraiment la mort du thumos, de la partie colérique de l'âme, et en pensant que le désir de reconnaissance, je crois que c'est monsieur qui l'a souligné, que... Strauss et Kojève étaient d'accord pour voir un lien entre la vanité chez Hobbes, le désir de reconnaissance, le maître et l'esclave chez Hegel, que tout ça, Fukuyama disait, il y aura une reconnaissance générale, comme disent les marxistes, de l'homme par l'homme. Alors on lui avait objecté non, et du coup il avait forgé deux concepts, la mégatunia et la mésotunia, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque en tant qu'homme, et puis des gens qui voulaient, bon, je crois que la véritable reconnaissance, c'est qu'on veut être supérieur aux autres, ou qu'on veut être aimé plus que les autres, etc. On ne se contente pas d'une reconnaissance anonyme en tant qu'homme. Mais il y a des cultures qui sont fondées sur l'honneur, la primauté, communauté, d'autres qui sont plus matériels. Et donc, justement, l'histoire des drones, si vous regardez les sondages, etc., il y a des sociétés où elles sont bannies. Et les Américains trouvent ça très bien. Hein, peut-être parce que c'est avant tout eux, les Israéliens, eux qui les ont aujourd'hui, mais quand même. Donc, ce que je voulais dire, je ne sais pas s'il y a, sauf le désir de toute puissance, des passions qui sont développées par, encouragées par la technique, et puis je ne connais pas assez les débats psychologiques, si les robots qu'on est en train de préparer, on les prépare tout près avec des passions ou pas, ou s'ils sont purement mécaniques, ça je n'en sais rien, mais ce que je crois, c'est qu'il y a un potentiel dans tout un humain qui est plus développé en certaines circonstances, ou qui peut renaître finalement pour ce que le retour de la fameuse dialogue entre Freud et Einstein, où Einstein dit à Freud, monsieur Freud, vous qui connaissez l'âme humaine, comment se fait-il cette barbarie de la guerre de 14, etc. Et Freud répond, c'est le retour du refoulé. Et du coup, quand le refoulé retourne, on est plus sauvage que l'homme primitif qui peut tuer pour manger ou comme ça, tandis que là, il y a un acharnement chez des peuples comme, je sais pas, les Chiliens, les Libanais, qui sont plutôt parmi les peuples non belliqueux. À un moment donné, ça se déclenche. Donc, c'est pas moi qui irais proposer des choses originales sur les mécanismes de l'âme humaine. Mais je crois qu'il y a une interaction entre ce qui est permanent et qui peut être encouragé par l'éducation, par la tradition ou pas, ce qui est... ce qui naît d'une certaine culture et ce qui naît de possibilités un peu imprévues et inconnues qu'offre la technologie, et où, après tout, comme dit je crois Malraux et beaucoup de gens avant ou après lui, tout homme rêve d'être Dieu. Il y a l'anneau de Gigès dans Platon, que si on pouvait se rendre invisible, qui sait jusqu'où ça irait dans ce que nous ferions. Donc on ne peut pas répondre à votre question, mais je crois quand même qu'on est dans un monde où tout est en question, si vous voulez. Peut-être qu'il n'en sortira pas une catastrophe finale, mais je ne crois pas qu'on croit au nouvel homme soviétique ou chinois ou autre, mais on est dans ce domaine-là aussi, sur la nature humaine à laquelle je crois plutôt, n'étant plutôt qu'à l'histoire, mais il y a des limites aussi à la permanence, peut-être.
Je rajouterais un mot sur l'impact des technologies, sur justement ces dynamiques-là. Il y a un point qui me semble très important, et très banal, mais qui dans les guerres, pèse désormais de manière extraordinaire. C'est effectivement la diffusion extraordinairement rapide, quasi immédiate, des informations. Et où, au fond, est non maîtrisée. Parce que cette diffusion existait auparavant. Et on peut dire que pendant la première guerre du Golfe, donc il n'y a pas si longtemps, l'information était immédiate, mais elle provenait exclusivement de CNN. Aujourd'hui, pendant la deuxième guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak, elle venait plutôt d'Al Jazeera. Et aujourd'hui, on a, dans la couverture d'un dossier comme la Syrie, des traînées de poudre qui partent sur les réseaux sociaux, etc., y compris les images d'atrocités dans les deux sens, etc. Et en plus, avec la personnalisation que permet les réseaux sociaux, qui aggrave de ce point de vue les passions humaines, on ne peut s'informer qu'aux sources qui confortent dans ses opinions. Donc on peut suivre le conflit syrien uniquement à travers des comptes qui racontent les atrocités des rebelles djihadistes, comme on ne peut suivre le conflit syrien qu'à travers le regard d'une opposition, etc. Donc il y a ça provoque ces phénomènes terroristes qu'on appelle à tort d'autoradicalisation, mais qui sont en fait une radicalisation par le contact avec les réseaux sociaux, etc.
Je pense que j'ai été une très mauvaise présidente. J'ai largement dépassé le temps qui était imparti pour la discussion. Mais bon, c'était tout à fait passionnant. Je m'en excuse. Et j'appelle donc pour le deuxième dialogue sur les fragilités démocratiques, Dominique Schnapper et Pierre Manant. Donc je vais sauter l'introduction que j'avais prévue, qui était de toute façon très rapide. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous présenter Dominique Schnapper et Pierre Manant. Je voudrais simplement, parce que je pense que le nom de Montesquieu a été cité et souligné par Perrine comme central dans le travail d'Aron, vous lire cinq lignes du chapitre 3 du livre 8 de l'Esprit des lois de Montesquieu, qui peut-être fournir l'un des points de départ de cette discussion sur les fragilités de la démocratie. Je vous le cite. Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de l'esprit d'égalité extrême. Le premier ne consiste point à faire en sorte que tout le monde commande ou que personne ne soit commandé, mais à obéir et à commander à ses égaux. Il ne cherche pas à n'avoir point de maître, mais à n'avoir que ses égaux pour maître. Et Montesquieu, trois lignes plus bas, continue. Telle est la différence entre la démocratie réglée et celle qui ne l'est pas. La place naturelle de la vertu est auprès de la liberté, mais elle ne trouve pas plus sens auprès de la liberté extrême qu'auprès de la servitude. Fin de citation. Alors, il y a là, me semble-t-il, matière à essayer d'analyser l'actualité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la liberté? Quels sont les dérapages éventuels du côté de l'égalité et ou de la liberté extrême? Et puis, il y a cette formidable formule de Montesquieu. N'avoir que ses égaux pour maître, c'est une formule formidable parce que c'est finalement en raccourci toute la théorie de la représentation politique qui est ici concentrée en quelques mots. Et la question, me semble-t-il, mais je vous la soumets à l'un comme à l'autre, est de savoir si aujourd'hui la crise, ou en tout cas la fragilité, ou les effets d'usure de la représentation dans nos démocraties, n'est pas en partie liée à la difficulté à mettre en œuvre cette formule de Montesquieu et au délitement de ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle encore aujourd'hui des corps intermédiaires qui sont fondamentaux dans l'exercice de la représentation. Dominique Schnapper.
Alors, dans leur grande sagesse, les deux organisatrices, c'est-à-dire Sylvie et Perrine, ont sans doute sous-estimé l'effet de la chaleur de cet amphithéâtre et la fatigue des vieillards au bout de toute une journée où énormément d'idées ont été agitées, traitées, analysées. Et donc j'espère que je serai, je ne parle pas pour Pierre, mais que moi je serai à la hauteur de la question que notre présidente vient de poser. Alors, je voudrais enchaîner sur ce que David Cohen avait analysé, c'est-à-dire la transformation au cours des années 80 et le passage de ce qu'il a appelé la société industrielle à la société post-industrielle. Alors, il en a donné des définitions très précises et très convaincantes. Mais comme les sociologues sont moins précis ou moins rigoureux que les économistes, ils ont inventé toute une série de termes du style la postmodernité, l'ultramodernité, la modernité tardive, l'hypermodernité, la seconde modernité, pour désigner ce qui nous apparaît à tous, c'est-à-dire une certaine transformation des modes d'exercice de la démocratie depuis les années, disons, entre 80 et 90. Alors, quand j'en discute avec Pierre, comme c'est un aronien et que par conséquent il est nuancé, il dit qu'il y a à la fois la rupture et du développement interne. La plupart des sociologues sont sensibles à la rupture, c'est pour ça qu'ils ont inventé tous ces termes pour indiquer qu'il y avait une rupture dans une première démocratie et dans la démocratie actuelle. Alors peut-être par esprit de contradiction, moi je suis beaucoup plus sensible au développement de la démocratie par elle-même, c'est-à-dire à ce que notre présidente a appelé les risques de dérapage qui sont liés aux caractéristiques même de cette démocratie. Alors bien entendu, je ne suis pas à ce point contraire à l'esprit du temps pour ne pas admettre qu'il y ait de grandes ruptures et de grandes transformations, mais il me semble qu'on peut comprendre beaucoup de ces risques de dérapage qui sont quelquefois commencés, qui sont quelquefois annoncés, à partir de la logique interne de la démocratie elle-même. La démocratie peut se trahir peut déraper, disons, ou dériver à partir de deux phénomènes, soit la trahison de ses propres valeurs, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup insisté et qu'on continue à a insisté à propos de la, du système colonial, à propos de la place des femmes, à propos du racisme de la société américaine. Enfin, il y a toute une littérature juste sur les manquements de la démocratie à ses propres valeurs. Ou bien, ça c'est le premier versant, ou bien par l'exagération de ses propres caractéristiques ou de ses propres qualités. Et c'est là-dessus que je voudrais introduire quelques thèmes pour la discussion avec Pierre. Parce que nous avons ce qu'on appelle souvent des sensibilités politiques qui ne se recouvrent pas absolument, mais je crois que nous pouvons nous retrouver dans un certain nombre d'analyses dans lesquelles il est sans doute plus pessimiste que moi sur les risques de dérive. Et donc, je crois qu'il faut partir du principe d'origine, c'est-à-dire de l'idée de la démocratie fondée sur l'idée de l'autonomie de ses membres et sur la liberté et l'égalité des citoyens, les membres étant des citoyens avec des limites sur lesquelles on ne reviendra pas et que vous connaissez. Et donc, le risque dont on peut voir certaines annonces aujourd'hui, c'est de passer, pour reprendre les termes de la philosophie classique, de l'autonomie à l'indépendance, de la liberté à la licence, et je précise que la licence n'est pas seulement un niveau universitaire, parce que j'étais obligée de le préciser à nombre de mes étudiants sociologues, ce qui m'a beaucoup inquiétée sur la culture classique qui est maintenant diffusée dans les espaces publics. Donc le risque de passer de la liberté à la licence et de l'égalité à la ressemblance ou à une société de ressemblance. Alors Pierre, dans son cours familier de philosophie politique, dit que la démocratie est le règne de la séparation, plutôt des séparations entre l'État et la société civile, entre les différents pouvoirs, entre la connaissance et l'action, entre le devoir-être et l'être. Et le risque de dérive de la démocratie réside dans la possibilité que ces séparations se dissolvent, qu'on entre, comme dans les relations internationales, dans le flou et le fluide, et qu'on ne sache plus très bien ce que sont les institutions et les principes. Alors je vais dire quelques mots sur ces trois termes, c'est-à-dire passer de l'autonomie à l'indépendance, c'est passer de l'idée que l'individu n'exprime pas sa liberté à l'intérieur des règles, mais qu'il se donne à lui-même le droit d'élaborer ses propres règles et par conséquent de ne pas respecter les règles collectives. Alors c'est une vieille, je veux dire, c'est un thème très, très, très classique de la philosophie politique qu'on retrouve aussi bien chez Rousseau que chez Kant et bien avant, c'est-à-dire que la liberté s'exprime à l'intérieur des lois qui l'organisent et ne se définissent pas par le caprice de l'individu. Et évidemment, c'est le risque que l'autonomie soit en dehors de toute règle, ce qui donnerait, s'exprime en dehors de toute règle, ce qui donnerait l'idée que le respect des règles est en tant que tel une violence symbolique ou est une contrainte insupportable et contraire à la liberté. Et donc, c'est remettre en cause toute une. On l'observait de manière générale, remettre en cause toute la conception, disons, de la liberté à l'intérieur des règles, des normes et des lois librement élaborées et consenties, qui est au fondement de l'idée démocratique. Alors, le passage de la liberté, le risque de passage de la liberté à la licence, c'est le moment où la liberté étant assurée par des institutions, les institutions ne sont plus respectées en tant que telles. Ce qui fonde la démocratie, c'est sans doute un certain nombre d'idées, mais c'est aussi un certain nombre de pratiques, et c'est le respect des institutions qui organise ces pratiques. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait contre tel président de la République, mais on doit respecter la légitimité de la fonction elle-même en tant que telle, indépendamment de la personne qui, provisoirement, occupe cette fonction. Et là aussi, la personnalisation de la vie publique dans les démocraties remet un petit peu en question cette conception d'une légitimité qui est fondée sur le respect d'institutions communes qui doivent d'autant plus être respectées qu'elles ont été librement élaborées. Le troisième thème, c'est la troisième dimension de ces risques de dérive, c'est le passage de l'égalité à la ressemblance, c'est-à-dire l'idée que à la fois il peut y avoir une confusion des ordres, la confusion de l'ordre politique et de l'ordre judiciaire, de l'ordre intellectuel et de l'ordre de l'action, les différents ordres qui séparaient, puisque la démocratie repose sur l'idée de la séparation de l'ordre civique, c'est-à-dire de l'ordre du politique, des réalités ethniques d'un côté et de l'ordre religieux de l'autre. Et c'est ce système de séparation qui fonde l'ordre démocratique risque d'être remis en question et souvent, éventuellement, commence à être remis en question. Il peut y avoir confusion des ordres, il peut y avoir confusion des personnes quand toutes les distinctions entre personnes sont perçues et donc dénoncées comme des inégalités au lieu d'être reconnues comme des différences. Et là aussi, nous voyons des premières manifestations de cette transformation des différences revécues en tant qu'inégalité et à ce titre condamnées. Il y a aussi le risque de la confusion des valeurs et je reviens sur ce thème qui me frappe beaucoup, du passage de ce que mon ami Selim Abou appelle le relativisme culturel relatif au relativisme culturel absolu, c'est-à-dire le passage non pas de la relativité des cultures sur lesquelles nous sommes tous d'accord, mais sur le fait que cette relativité peut devenir absolue, c'est-à-dire reposerait sur l'idée qu'il n'y a pas de communication possible entre les différentes cultures, et donc pas de moyen d'avoir des systèmes, des valeurs universelles en fonction desquelles tel ou tel trait culturel pourrait être évalué. Et donc c'est un risque on peut voir dans le risque de dérapage de la démocratie aujourd'hui, ces risques de confusion entre les ordres, entre les personnes et entre les valeurs. Ce qui, alors, pourrait conduire non plus à une société de la compétition, l'idée de compétition étant faisant partie de l'idée démocratique et de l'idée de n'avoir que des échos pour maître, et par conséquent, le choix des maîtres doit reposer sur l'idée de concurrence et de compétition, nous risquons, au nom de du projet émancipateur de la démocratie, de venir non pas dans ce que Honneth appelle la société du mépris, mais la société d'une humiliation, puisque tout le système de la vie sociale est organisé autour de cette idée de compétition et que toute compétition comporte ses vainqueurs et ses vaincus, de sorte que nous risquons, si la démocratie devenait extrême, pour reprendre le terme de Montesquieu, d'être dans une société d'un écart qui devient insupportable entre des réalisations banales, disons, et des aspirations des individus démocratiques qui, par elles-mêmes, ne comportent aucune limite. Et quand il n'y a pas la conception des limites à l'existence humaine, on entre dans la société de la déception, donc des humiliations et éventuellement des ressentiments.
À Pierre. Merci. Je serai très bref parce que nous n'avons plus beaucoup de temps et puis on me reproche en général d'être désespérant et je pense que dans ce cas-là, il faut être le plus bref possible. Alors, démocratie extrême, en quel sens? Je crois qu'on peut être d'accord sur la démocratie originelle, la fondation démocratique. En quoi a-t-elle consisté? La Révolution française est l'acte qui la concentre, cette démocratie moderne. Elle comporte deux moments. Elle pose les droits de l'homme, elle sépare les hommes, comme le disait très bien Marx. Les droits de l'homme sont les droits de l'homme séparé des hommes, de l'homme séparé de l'homme. Donc la démocratie commence par séparer les hommes pour les réunir d'une autre façon, pour les réunir dans un corps politique nouveau. Donc les droits de l'homme, dans la démocratie originelle, sont au service d'une nouvelle fondation politique. Donc deux moments inséparables dans la démocratie au sens complet, libérale et républicaine. Le moyen est libéral, le projet est républicain. Il me semble, c'est mon interprétation que je soumets, que dans la dernière période, le premier moment, le moment libéral, le moyen, la condition de la démocratie est devenue la finalité de la démocratie et est devenue la finalité presque exclusive de l'entreprise démocratique. Et en ce sens, c'est plus d'un, il s'agit de plus que d'un dérapage, il s'agit d'une très profonde mutation, puisqu'encore une fois, le moyen est devenu la fin et la finalité presque exclusive. De sorte que nous sommes encore en démocratie, puisque les droits de l'homme sont toujours au cœur de notre perspective, mais la finalité politique a été oubliée en chemin, de sorte que, dans un langage que l'on peut contester, il me semble que la démocratie, de régime politique qu'elle était, est devenue une religion, ou une sorte de religion, une religion de l'humanité, comme j'ai suggéré de l'appeler. En tout cas, elle a un signe des religions, c'est qu'elle est intolérante. Le politiquement correct, je crois que la meilleure façon de le définir, c'est de dire que c'est la discipline de parole, la discipline de parole de cette nouvelle religion. Ce que je viens de dire là en termes politiques, de philosophie politique générale, on pourrait le dire, c'est mon deuxième point, en termes, j'allais dire presque sociologiques, si j'ose. Je ne voudrais pas compromettre cette auguste discipline en faisant un usage maladroit, mais on peut dire après tout que le problème qui se pose à l'homme social, c'est le problème en termes sociologiques des institutions, de l'institution d'une part, et d'autre part des conditions d'accès à l'institution. Les institutions, eh bien, la nation, les nations, les corps politiques, l'université, la famille, les églises peut-être. Eh bien, il me semble que la tendance de la société moderne, alors faut-il dire tendance, volonté, perspective, en tout cas ce qui est au centre des thèmes qui animent le mouvement social, c'est de concentrer l'attention sur les conditions d'accès à l'institution et non plus sur les finalités de l'institution, ou si l'on veut, le sens de l'institution, la raison d'être de l'institution, les composants objectifs de l'institution. Et en termes sociologiquement neutres, si j'ose dire, ce à quoi nous assistons, l'effort auquel nous assistons, consiste à ouvrir au maximum les conditions d'accès à toutes les institutions dont nous sommes membres. Nation sans frontières, nation ouverte à tous, nation destinée à se fondre dans une Europe destinée à se fondre dans l'humanité, université auquel, bien sûr, il s'agit d'accéder sans sélection, et bien sûr, mariage pour tous. Donc, l'horizon ultime, si je peux dire, l'horizon social, c'est une institution ou des institutions qui ne posent aucune condition d'accès à l'institution. Et en ce sens, ce n'est pas simplement un régime politique qui a changé sa définition, en tout cas qui donne de lui-même une définition unilatérale et partielle, qui modifie la définition originelle. D'une certaine façon, c'est l'institutionnalisation même de la vie sociale, ou la vie sociale comme institution et ensemble d'institutions, qui paraît, mise en question par un intérêt presque exclusif porté à l'accès à l'institution. Un accès qui, encore une fois, doit être sans limite. Voilà, donc, troisième point, mais je peux... ce n'est qu'un point d'interrogation. Quelles sont les conséquences politiques de la dépolitisation? ou quelles sont les conséquences institutionnelles de la désinstitutionnalisation. On se plaint aujourd'hui de l'absence de projet politique, mais il n'est pas imputé ni aux défaillances individuelles, ni même à la classe politique. L'absence de projet politique résulte du mouvement même de notre régime, l'équilibre libéral-républicain qui fait la démocratie, qui a toujours été fragile. Il n'a jamais été heureux. Il a toujours été fragile, avec des excès libéraux et des excès républicains. Eh bien, cet équilibre est aujourd'hui, me semble-t-il, entièrement rompu. Et donc, nous n'avons plus de carte, en quelque sorte, nous n'avons plus de carte politique pour évaluer l'avenir prévisible. Donc, je m'en tiendrai là.
Ce qui est bien avec Pierre, c'est que moi, qu'on trouve pessimiste, quand je l'écoute, au moins, je me sens l'image de l'optimisme. Alors, il me semble
que... Je n'ai posé qu'une question. J'ai posé un point d'interrogation.
Oui, mais tu as posé une question qui est absolument définitive.
Non.
Et sans appel. C'est-à-dire que ce que j'essaye de présenter en termes de dérapage possible, en termes de ce qu'on annonce, qui pourrait éventuellement arriver, et dont on voit les prémices, toi, tu l'analyses en destin inscrit dans de toute éternité. Donc, ça me donne un côté optimiste. Alors, il me semble quand même que... D'abord, quand tu dis la démocratie a toujours été fragile, oui, c'est vrai, mais enfin, toutes les sociétés humaines ont toujours été fragiles. C'est pas seulement la démocratie. C'est par définition, l'organisation des sociétés est fragile puisqu'elles oscillent entre des aspirations définitives et la condition humaine et les aspirations, contradictoires des êtres humains. Donc, le fait que la démocratie a toujours été fragile, autrefois, on disait, n'est-ce pas, la solidité des régimes soviétiques et la fragilité des démocraties. Il y a eu une époque où c'était un des thèmes. Bon, on voit que c'est un peu plus compliqué et qu'il y a des formes différentes et de fragilité et de solidité. Donc, je pense que la démocratie est très fragile, mais je pense aussi qu'il ne faut pas, relativiser cette fragilité à la fragilité plus générale des sociétés humaines. Alors, le risque de dérapage ou le destin, qui est quand même le grand problème où nous n'avons pas, la même perspective, l'avenir nous le dira. Ce que je voudrais souligner deux choses. D'abord, l'idée démocratique est la seule idée dont nous disposions pour organiser humainement les sociétés humaines. Nous n'avons pas dans l'histoire, puisque si on laisse de côté tout ce qui est purement utopique sur lequel on peut dire, c'est comme le virtuel, on peut dire tout ce qu'on veut, donc c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'autres formes d'organisation historiquement situées. Nous n'avons pas d'autres idées pour organiser humainement les sociétés humaines, et l'idée fondamentale, enfin l'idée de base à laquelle sans doute je souscris avec moins de réserve ou moins de réticence que Pierre, c'est l'idée de l'émancipation de l'individu. Alors je ne sous-estime pas le fait que l'idée de l'émancipation de l'individu pose ensuite le problème de ce qu'on appelle couramment chez les modestes sociologues l'intégration sociale. C'est-à-dire que plus on fait de l'individu l'objet premier de l'organisation sociale, plus se pose le problème de la collaboration de ces individus. Et je pense que c'est une tension fondatrice. Il ne me paraît pas écrit de toute éternité que cette tension amène, à l'échec. Là où je te suis complètement, c'est l'idée qu'il n'y a pas de limite. Cette idée qu'il n'y a pas de limite, qui est d'ailleurs en affinité structurelle avec l'absence de limite du projet scientifique et l'absence de limite du capitalisme, qui fait qu'on a comme ça trois principes de refus des limites dans les sociétés démocratiques historiques telles que nous les concevons. Et là, cette absence de limites acceptées et légitimées risque effectivement que les dérapages que j'ai évoqués existent, adviennent, ou que le destin que tu redoutes advienne lui aussi.
Juste un mot pour laisser la parole à la salle. Je ne prévois rien, mais vraiment rien. Non, c'est parce que je crois effectivement que c'est une situation très inédite, très très inédite. Ça rejoint la question qui était posée à Pierre Asner tout à l'heure, par Giulio, la question des passions. Il est clair que notre esprit est occupé uniquement par l'idée démocratique. De ce point de vue-là, la démocratie n'est absolument pas en danger. Il n'y a aucune proposition de régime...
C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre idée.
Oui, mais il n'y a aucune proposition de régime non démocratique, de nouveau régime, d'ordre nouveau, il n'y en a aucune. Il y a peut-être des groupuscules qui s'appellent ordre nouveau, mais il n'y a aucune proposition. Mais ce qui fait défaut, étrangement, ce qui semble faire défaut, pour le meilleur et pour le pire, pour une part pour le meilleur aussi, c'est l'absence de passion fondatrice. Et il est clair que les deux interlocuteurs, disons, la vieille nation et la nouvelle Europe, manquent tous les deux terriblement de passion pour les porter. Les deux possibilités sont l'une et l'autre assez faibles, parce que l'ardeur nationale, la grandeur nationale du général, elle est très largement un motif de discours politique il y a 5 minutes pour la France. Et du côté de l'Europe,
et de spectacles sportifs.
Et du côté de l'Europe, il y a une même absence de passion rassemblante ou fondatrice. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas prévoir quelles sont les conséquences d'un ensemble humain qui est dominé par une seule idée, qui n'est pas contestée, mais qui, cette idée, n'est plus portée par des passions, comme disait Sophocle, fondatrices de cité. Voilà.
Non, c'est, sur l'Europe, je crois que l'idée qu'il existe un peuple européen au sens du peuple politique, là je te suis absolument, je crois qu'il n'y a pas effectivement, il n'y a pas ou il n'y a plus ou il n'y a jamais eu, enfin on pourrait raffiner sur le sens qu'a pris l'identification européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas aussi sûre que les passions nationales soient aussi affaiblies qu'on le pense. Je pense que d'abord c'est un phénomène tout de même européen. C'est-à-dire que les passions politiques, les passions nationales, on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'Asie, l'Afrique, etc. Les passions nationales restent très fortes. Que l'État-nation n'est, bien entendu, il y a les réseaux, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le plan de la géopolitique. Mais malgré tout, l'État national est un des acteurs d'un système beaucoup plus compliqué, mais qui reste existant. Donc, autant sur les passions européennes, je te suis tout à fait, autant je ne suis pas sûre que sur les passions nationales, on puisse être aussi... aussi expéditif, disons.
Des passions qui portent des ambitions, qui est des passions particularisantes.
Plutôt que des passions...
Oui. Mais qui portent des ambitions, de grandes ambitions, c'est là, je crois que... Non, il y en a, même dans les nations, en tout cas en Europe, il n'y en a plus.
En Europe.
Où elles sont faibles, voilà.
Oui, non, en Europe, d'accord. Pas dans le reste du monde.
Je vais vous poser une question très simple. Pierre Manant, puisque quelles sont les ressources sur lesquelles les individus peuvent se reposer pour réaliser des actions politiques? Quelles sont les ressources? Voilà, la question est simple, c'est-à-dire quelles sont les alternatives possibles ou quelles sont les possibilités d'agir sur cette dynamique qui semble être inéluctable? Il y a bien des contreparties, c'est-à-dire il y a bien de la liberté. On ne peut pas dire il y a une dynamique qui s'impose à nous et puis nous restons passifs.
Non, c'est une très bonne question. C'est la question que Tocqueville se posait, parce que après tout, j'aurais pu dire ce que je viens de dire avec 3 ou 4 citations de Tocqueville. C'était il n'y a aucune innovation dans ce que j'ai dit. Je crois précisément que... Les deux grandes ressources sont liées à ces deux composantes, ces deux ressorts de l'humanité, c'est-à-dire auxquels Dominique faisait allusion. Le premier, la liberté, et d'autre part, dans un langage qui serait à la fois politique et religieux, la communion. Je crois que les grands mouvements politiques et spirituels sont commençant par la cité grecque, le christianisme, la réforme, les révolutions démocratiques, ce sont à la fois des prises de liberté et des fondations de communion. Voilà. Et donc, je réponds à votre question, dans la mesure où l'histoire nous permet d'y répondre, l'expérience historique nous permet d'y répondre, est-ce que nous avons devant nous à la fois des mouvements qui comportent prise de liberté et fondation de communion. Il y a des traces de ceci ou de cela. Pour le moment, les choses ne se cristallisent pas. Et puis d'ailleurs, ce genre de mouvement n'a pas nécessairement que des effets heureux, je n'en sais rien. Mais voilà, je crois que c'est de ce côté-là que l'humanité a des ressources. Si ces ressources, elles les... elle les mettra en œuvre, je n'en sais rien. Mais c'est ainsi que c'est dans ces termes, si vous voulez, que je poserai la question des ressources.
Merci. Bonjour. Pardon, la question d'un amateur, mais vous disiez qu'il n'y avait pas de perspective autre que démocratique. Et quand on regarde le régime américain, il dit bien le régime américain, pas la constitution américaine, qui est républicaine et démocratique, mais le régime américain est à la fois démocratico-oligarchique, sa légitimité fonde à la fois sur le nom, me semble-t-il, et sur un principe aristocratique, en quelque sorte, que nous détestons en France, à savoir la fortune. Mais ma foi, devenir riche, c'est aussi une forme de talent et qui explique en partie l'énergétique américaine et que d'aucuns expliquent le déclin français par l'absence justement d'un tel principe que nous avons perdu. Voilà. Alors je me demandais, est-ce que des issues françaises ne seraient pas la découverte ou est-ce que nous ne sommes-nous pas en recherche d'un nouveau principe, en quelque sorte oligarchique, pour tempérer le nombre et retrouver une certaine énergétique démocratique?
L'idée démocratique doit se conjuguer avec ce qu'on a appelé tout à l'heure les classes dirigeantes. Oui, c'est les classes dirigeantes, c'est ça. Donc l'idée démocratique se conjugue avec des inégalités de fait et avec le recrutement d'une partie minoritaire de la population qui dispose du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir social, du statut social, où il y a des combinaisons différentes d'élite qui organise la société. Donc l'idée qu'il y a une minorité qui gouverne et une majorité qui gouvernait n'est pas contradictoire avec l'idée démocratique. Ce qui importe, ce qui fait l'idée démocratique, c'est l'idée que la minorité qui gouverne est placée sous le contrôle de la majorité de la de la communauté des citoyens. Et il y a toujours eu dans la démocratie telle qu'elle a été pensée depuis un peu plus de deux siècles une dimension à la fois oligarchique, puisqu'on choisit des meilleurs à un certain point de vue, des meilleurs du point de vue social, des meilleurs du point de vue intellectuel, des meilleurs du point de vue de l'engagement, ceux qui nous gouvernent, meilleurs au sens objectif du terme, mais il y a aussi une dimension démocratique qui est le fait qu'ils restent choisis par les gouvernés et sous leur contrôle, puisque quand on n'est pas content d'eux, on peut les renverser en respectant un certain nombre de critères. Alors, ce que vous posez, c'est le principe même de l'idée de représentation. Et jusqu'à présent, la démocratie qui a fonctionné le moins mal, ça a été la démocratie représentative ou la république représentative, comme vous voulez. Et elle a pris des formes concrètes assez différentes selon les traditions sociales et culturelles des différents pays. C'est-à-dire que les formes concrètes de la démocratie américaine ne sont pas les mêmes que celles d'Angleterre, du Royaume-Uni ou celles de la France, parce que l'histoire des sociétés n'est pas la même, que l'histoire de la naissance de la modernité politique n'a pas été la même, que le rapport avec les églises, le pouvoir religieux préexistant n'a pas été le même, de sorte que se sont conjugués des facteurs divers qui donne une forme spécifique à chacune des traditions démocratiques dans les démocraties. Et donc la comparaison qu'on peut faire entre la démocratie américaine et la démocratie française s'inscrit dans la variété de ces modalités. Mais il reste dans chaque cas l'idée que les gouvernants sont soumis à un certain contrôle dégouverné par l'intermédiaire des institutions de la République représentative.
Si je peux juste ajouter quelque chose, pour répondre à la question de Bertrand, et en écho à la citation de Montesquieu que Judith Revel faisait en commençant, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que le seul commandement légitime aujourd'hui, le seul commandement encore accepté de notre société, c'est le commandement économique, c'est-à-dire c'est le commandement des pauvres par les riches. C'est aussi simple que ça. Ni dans l'Église, presque plus dans l'armée, puisqu'il n'y a plus de conscription, ne parlons pas de l'université, ne parlons pas de la famille, où le pouvoir du chef de famille, comme vous savez, est anathème. Je veux dire, dans toutes les institutions, les pouvoirs ont été abolis, et le seul pouvoir encore légitimé, un pouvoir qui n'est pas légitimé par l'élection, contrairement à ce que Dominique vient de dire, c'est le pouvoir, disons, du patron ou le pouvoir des actionnaires. Et je trouve que c'est une des raisons de l'oligarchisation, me semble-t-il, dont parlait très bien M. Cohen tout à l'heure, c'était, je crois, que c'est le dernier domaine où on peut être inégal, où on a le droit d'être inégal. Et donc, il y a une concentration. Parce que, Bertrand, vous faisiez allusion à une partie importante de l'énergétique sociale, c'est qu'il y a des gens qui veulent l'emporter, qui veulent agir, qui veulent être les meilleurs, qui veulent être les plus riches. C'est une énorme part de l'énergie sociale. Et bien, aujourd'hui, c'est le seul domaine dans lequel c'est légitime, c'est la fortune. Et donc, il n'est pas tellement surprenant, c'est une explication très grossière, mais il n'est pas très surprenant que que les inégalités flambent dans ce domaine, alors que dans tout le reste de la société, dans tous les autres domaines de la vie sociale, l'égalité devient obligatoire, si j'ose dire.
À titre au moins de principe,
oui, oui,
et de valeur.
On va clore maintenant, je crois, la cinquième journée Raymond Aron. Et Perrine et moi, nous vous remercions tous de votre participation.